Sophie Catoire, bonjour.
Bonjour Pascal.
On vous retrouve avec grand plaisir.
C'est partagé.
Juste, merci. Juste avant votre venue à Ribérac pour la projection au cinéma Max Linder d'un film intitulé « Un château hanté par la préhistoire ». Avant de parler de ce film, je vais, et encore une nouvelle fois, puisque je crois que chaque fois que nous nous rencontrons, je vous félicite, vous adresser par conséquent mes félicitations pour le film précédent, qui est toujours d'actualité, puisqu'il y a encore un prix supplémentaire, des projections qui se succèdent un peu partout
sur la planète. Et pour tout vous dire, Pascal, c'est vrai qu'on est très fiers de sa sélection pour le festival aux États-Unis, le festival Archaeos en Caroline du Sud, où le dernier paysan préhistorien bardé de ses sous-titres en anglais sera diffusé lors de la soirée de clôture. C'est un festival en Caroline du Sud où en fait vont se retrouver tous les grands films de la planète qui parlent des fouilles importantes actuellement. Et je crois, mais on suivra ça, qu'il va y avoir des datations, notamment sur le continent américain, qui vont faire grand bruit. Et ce film, Le dernier paysan préhistorien, fera la clôture, ce qui est quand même une fantastique place d'honneur et on en est très fiers. Et par ailleurs, on a des discussions très concrètes et très prometteuses avec des chaînes étrangères.
Comment percevez-vous cette mondialisation finalement de ce dernier paysan préhistorien et comment l'intéressé lui-même perçoit-il l'ensemble de ses prix et de ses projections un peu partout sur la planète?
Comme il le dit toujours, on a pris du temps, on s'est donné le temps d'aller au bout de notre rêve et de l'image qu'on souhaitait partager, c'est-à-dire l'image vraiment du cœur de cet homme, de sa grotte, de sa ferme. Et peut-être par cette démarche longue et à la fois agréable et exigeante, on est parvenu à faire quelque chose d'assez universel. Et on se rend compte que finalement, l'art des cavernes, c'est le contact le plus immédiat, le plus fulgurant avec les ancêtres, puisqu'après tout, ce sont les captures de leurs imaginaires projetés sur des parois, on les ressent immédiatement. Et ça, je crois que ça passe dans la tête de tous les hommes, dans quelques coins de la planète que ce soit. Et on s'en aperçoit, il y a la lumière de la joie de vivre de Gilbert qui bien sûr transcende le film, mais il y a aussi son enracinement dans sa terre, dans sa grotte, qui sont les fondements de notre espèce et qui nous rendent fiers d'être humains.
Comment est-il, lui, perçu justement par tous ces scientifiques, ce public qui le découvre finalement?
On a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, ce film fait vraiment le pont entre le grand public et le monde de la science. On a présenté encore récemment ce film à Cap Science, à Bordeaux, dans le cadre de la Fête de la Science, avec Jean-Marc Bouvier, qui est un très, très grand préhistorien, un des meilleurs que je connaisse, hein, qui est à la fois préhistorien, climatologue, géologue. Et il a défendu ce film avec ardeur en disant que c'était la première fois qu'on voyait vraiment ce qu'est la préhistoire en Périgord, vécue par les hommes, et que voilà, ça paraît simple, mais ça n'avait pas encore été fait et on avait besoin de sentir simplement pourquoi nous, en Périgord, on est à ce point connectés à nos racines et pourquoi ça nous porte.
Est-ce qu'on peut dire qu'en plus d'être le dernier paysan, il est préhistorien, il est le dernier témoin?
Mais ça, c'est sûr que ça incite à plus de nostalgie, mais
de respect aussi.
De respect, mais c'est vrai que ça fend un peu le cœur parce qu'on se dit que c'est un monde qui peut-être disparaît, mais en même temps, en passant ce relais, en donnant envie aux gens de se rendre compte de leur patrimoine, de ce qu'ils ont autour d'eux dans les grottes, dans le sol, les outils, les squelettes, se rendre compte que tout ça c'est à nous et qu'on a traversé 3 millions d'années avec très peu de matériel et beaucoup d'intelligence, de faculté d'évoluer, de s'adapter, ça donne des forces et du courage pour aborder l'avenir sans être systématiquement enfoncé, culpabilisé et convaincu qu'on va tout rater alors qu'il y a, je le répète et je le dis, sur la planète, une grande, grande, grande majorité de gens qui font tout ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent pour rendre le monde meilleur et on y arrivera.
Il n'y a pas de raison, il faut rester optimiste évidemment. On en arrive à l'actualité avant cette projection, notamment à Ribérac ce vendredi, mais il y aura d'autres dates aussi un petit peu plus tard dans ce mois de novembre. Donc ce nouveau film que vous nous présentez, un château hanté par la préhistoire. Mm-hmm. Où est ce château hanté? Existe-t-il? Fait-il partie de votre imagination?
J'en ai rêvé, c'est pas faux Pascal, il existait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que j'attrape quelque chose dans mon sac, ça va faire du bruit, crouch, mais c'est important. Ah, peut-être que quelqu'un s'en est entiché tout à l'heure. Bougez pas, là c'est la séquence « Je fouille mon sac à main
». Jean-Nicolas Hulot.
On va faire, voilà, regardez ça, c'est un éclat de Néandertal. C'est-à-dire que Néandertal, il y a à peu près 70 000 ans, il a pris un morceau de silex de Bergerac, et il l'a cassé pour en faire cet éclat magnifique, extrêmement coupant, doux au toucher, concomitamment. Et ça, quand on est périgourdin, et qu'on a eu l'extrême bonheur, un jour, après la pluie, dans un champ labouré, de voir briller un silex taillé qui vous appelle, et le saisir dans sa main, et se dire qu'on touche la main de l'homme préhistorique qui l'a façonné. Voilà ce plaisir, cette jubilation intense. Moi, je voulais la faire partager dans un film. Donc, je sais par expérience, notamment pour avoir planté 4000 arbres dans ma forêt et avoir découvert une hache polie magnifique, comme ça, comme Excalibur sous un rayon de soleil dans la boue, et l'avoir prise dans la main et m'être dit oh, « voilà mes récompenses pour avoir sauvé cette forêt ». Je pense que les humains qui sont nombreux en Périgord, qui ont vécu cette expérience, savent à quel point c'est fort un outil. Un outil, c'est ni mort, ni froid, ni inerte, c'est vivant, et ça transmet la mémoire des ancêtres. Et comment montrer ça dans un film? Il faut trouver une collection pléthorique, géniale, avec toutes les époques, depuis l'homme qui sort d'Afrique jusqu'au premier paysan. Où trouver ça? Et pouvoir travailler sur le long terme, avec un environnement humain bienveillant, chaleureux, instruit, passionnant. J'ai trouvé ça au château de Sauveboeuf, à Aubas, presque par hasard, puisqu'en fait, Claude Douce, le propriétaire du château, avait su que je suivais de très près, en tant que journaliste grand reporter et réalisatrice, les fouilles du gisement préhistorique de la Ferracie, et il souhaitait que je lui en fasse un écho. Donc il m'a invité au château, et là, j'ai eu le grand flash de voir un château grand siècle, classique, splendide, posé à pic sur la Vézère, et en dessous, la préhistoire, dans les caves Renaissance, étalée, voilà, à la faveur de 500 000 pièces, comportant des outils, des parures, des Vénus, des pièces gravées. Et là, je me suis dit, mais est-ce que je rêve ou est-ce que tout ça est réel? Et c'était vrai. Et j'ai dit à Claude, mais est-ce qu'il y a déjà eu un film sur cette collection, sur ce lieu, sur ce voyage temporel entre le grand siècle médiéval et crac, tout d'un coup, on se retrouve dans les origines de l'homme. C'est tellement fort, tellement puissant. Il m'a dit, non, jamais, j'ai toujours refusé et d'être filmé et de montrer mes collections. Et je lui ai dit, mais est-ce que moi, je pourrais le faire? Et il m'a dit, oui.
Alors, c'était un honneur.
En tout cas, je l'ai pris pour argent comptant.
Le grand public, aujourd'hui, a la chance, depuis le printemps dernier, de découvrir enfin cette collection et ce château, d'ailleurs, puisqu'il était fermé jusqu'à présent au public. Hein.
Et voilà, Pascal, c'est l'effet magique Ferracie TV. On a passé une bonne année à vivre et à tourner dans ce château en immersion complète auprès de Claude Douce, le propriétaire des lieux, et de Jean-Luc Piel des Ruisseaux, qui est le spécialiste de l'outil préhistorique, auteur de cette sorte d'ouvrage de référence que lisent tous les étudiants en préhistoire, qui s'appelle L'outil préhistorique, publié chez Duno, et qui permet, grâce à une synthèse de tout ce qui a pu être écrit, de ce qui est écrit aujourd'hui encore sur l'outil, de comprendre cet outil, de comprendre qu'il comporte effectivement en lui le désir et le geste, la pensée et l'action, et qu'en fait, si on s'y intéresse vraiment, on rentre dans le mode de vie de nos ancêtres. Et donc, ces deux hommes, dans le plus grand secret, en fait, depuis 20 ans, Claude Douce et Jean-Luc Piel des Ruisseaux, tri des monceaux d'objets préhistoriques rassemblés dans les caves Renaissance du château. Et ces objets proviennent en fait des pères de la préhistoire du 19e siècle qui avaient amassé des collections, qui étaient en déshérence plus ou moins dans les greniers, dans les salles des ventes. Et très tôt, Claude Douce, qui lui de son côté avait fait fortune grâce à une fantastique carrière dans la publicité, a compris que ces trésors-là devaient être acquis et rassemblés pour sauver ce pan de mémoire. Et donc, depuis 20 ans, ces deux hommes trient, numérisent et créent une banque de données donc à destination des générations futures pour que ces premiers trésors du grand passé ne soient pas perdus.
Peut-on dire finalement que c'est une chance, même si aujourd'hui ce château donc est privé, hein, qu'il y ait une telle collection et que finalement les pouvoirs publics n'aient pas amassé une telle collection auparavant?
Alors je ne saurais répondre à cette question, mais en tout cas, moi je sais que pendant le tournage, j'ai toujours dit à Claude, Ce serait tellement merveilleux que tout le monde ait accès à cette collection, que vous ouvriez, que vous expliquiez avec votre passion, tous les deux, ce trésor qui est tellement essentiel pour les petits comme pour les grands. Et bon, de fait, après ce long travail de motivation, à la fin du tournage, Claude a ouvert son château au public, ce qui est pour moi formidable, et pour le grand public aussi, bien naturellement. Est-ce que c'est possible que des choses similaires existent dans le domaine public? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a c'est un peu comme à Bernifal. Il y a la valeur ajoutée de l'être humain investi dans le lieu et qui le porte et qui le transmet avec sa passion. Donc ça, c'est vrai que c'est précieux, et que aussi bien Gilbert dans sa grotte fera aimer l'art pariétal à un enfant de 4 ans qui aura l'impression de découvrir la grotte lui-même, aussi bien Claude et Jean-Luc dans les caves du château font vivre un voyage inoubliable pour ceux qui font la démarche d'aller les voir.
On pourrait presque dire que Claude Doux est le fils finalement de Gilbert.
En tout cas, nous l'avons officiellement intronisé dans la tribu de Ferraci TV. Nous avons fait un passage de relais tout à fait officiel à Montignac dimanche dernier. Et en réalité, il en est parfaitement digne, puisqu'il porte à présent lui aussi cette mission de partage du patrimoine de l'humanité.
Il a un amour à la fois, bien sûr, pour la préhistoire, mais aussi pour ce château.
Oui.
Finalement, ils ne font qu'un entre l'être humain qu'il est et le château qu'il a acheté, hein, qui n'a rien à voir avec la famille, les ancêtres de ce château.
Exactement. Claude Doux est un self-made man. C'est quelqu'un qui a une force de vie phénoménale, qui a eu la force de transformer sa vie en success story dans le monde du showbiz et de la pub. Et à partir de là, il a toujours eu cette quête de sens et de racines qui l'a conduit à acquérir un premier château dans l'Eure, en Normandie, puis ce deuxième. Dans l'Eure, c'était le Manoir des Brumes. Et ici, en Périgord, il a eu cette rencontre avec le château de Sauveboeuf et il l'a entièrement restauré. Et c'est vrai que ce château, même s'il est aujourd'hui ouvert à la visite, n'a pas la froideur ou le côté un peu impressionnant d'un musée, c'est vraiment un endroit vivant qui, comme lui, transpire la joie de vivre, l'enthousiasme pour chaque journée qui démarre. Et en ça, il est très proche de Gilbert, ce que j'aime beaucoup dans les personnages que je filme, et c'est sans doute pour cette raison que je passe du temps avec eux, c'est qu'ils ont foncièrement ce bonheur, cette intelligence de savoir profiter de chaque instant, et que vivre à leur contact, c'est aussi rendre la vie tellement, tellement plus forte et tellement plus intéressante.
Il a en plus la faculté de s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui. Lui qui a côtoyé, je vais dire, quasiment les plus grands de la planète.
Oui, oui. Il a le goût du partage. Il a le sens de la discussion. C'est comme ça. C'est dans sa nature. Et c'est vrai qu'en fait, maintenant qu'il a du temps pour le faire, il le fait avec tout son cœur.
On en revient à ce film. Hein,
oui.
Même si les deux, Claude Doux et ce château, sont liés. Comment avez-vous fait la trame donc de ce film sur le site du château de Sauveboeuf, ce fameux château hanté?
Alors voilà, en fait je me suis installée dans le château et j'ai déployé mes antennes et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'était si agréable d'être là. Et j'ai senti deux hommes qui convoquent, qui appellent les ancêtres. Et j'ai imaginé, parce que je le ressentais, qu'un fantôme de la préhistoire, à force d'être appelé, désirait, surgirait, et lui découvrirait ce monde moderne, notre monde à nous, certes dans un château du XVIIe siècle, mais toutefois avec les ordinateurs, toute la technologie moderne et tout ce qu'il nous faut aujourd'hui pour exister. Et je trouvais intéressant, au milieu de ces deux voyages, donc nous qui cherchons l'ancêtre qui débarque, d'essayer de trouver une sorte de terrain où on pourrait mettre en valeur les vraies richesses au sens du très beau petit livre de Jean Giono, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte vraiment pour se construire, pour être un homme. Et au milieu de ces 500 000 pièces, qui bien sûr me donnaient un petit peu le vertige, avec Piel et avec Claude, quand je dis Piel, c'est Jean-Luc Piel des Ruisseaux, c'était un petit diminutif, hein, c'est pas du tout dépréciatif, et puis Piel c'est la peau, hein. Avec Jean-Luc et Claude, donc on a choisi une vingtaine de pièces, ce qui est une gageure bien sûr sur 500 000, et on s'est dit on va retracer le parcours de l'humanité avec les mains de Jean-Luc, qui va toucher de façon sensuelle, sensorielle, ces pièces et qui va nous donner des petits jalons sur l'histoire de l'homme, mais ce sera des petites touches légères au cours du film. Ce ne sera pas la massue, la chose qui vous étouffe et qu'à la fin, on ne retient pas tellement, il y a eu d'informations. Donc on a l'homme qui sort d'Afrique, l'homme des bifaces, 500 000 ans de bifaces, l'homme de Néandertal, les éclats qui commencent à se façonner de façon de plus en plus subtile et artistique, l'homme de Cro-Magnon avec le déploiement d'aiguilles à chat et de pointes de sagaie et de choses de plus en plus habile et sophistiqué, et puis enfin les premiers paysans qui ressemblent beaucoup à nos modes de vie d'aujourd'hui. Et donc on se rend compte que ce continuum, on le comprend, et que voilà, l'homme a réagi en fonction des matières premières et de l'environnement qui l'entourait, qu'il a essayé d'améliorer tout ça au fur et à mesure du temps, et que finalement c'est rien n'est si étranger ni si mystérieux. On a en nous cette mémoire archaïque qui nous permet de comprendre tout ça. Ça, c'est l'histoire d'une espèce, l'espèce des humains. Et en même temps, mes deux spécimens vivants aujourd'hui, qui sont si passionnants, Claude et Jean-Luc, vont se raconter, vont expliquer pourquoi eux ont fait ce chemin en dépit de carrières internationales formidables. Donc, on l'a compris, Claude, dans le monde de la publicité, et Jean-Luc Piel-des-Ruisseaux, en tant qu'illustre chirurgien viscéral, très très grand chirurgien. Comment et pourquoi eux, voilà, ont trouvé le temps et ont éprouvé le besoin de rentrer dans l'archéologie, de rentrer dans l'outil pour donner du sens à leur vie. Et ces parcours-là aussi sont très intéressants. Et voilà, donc on a la vie d'une espèce, et puis la vie des deux hommes modernes, et puis on a donc le regard d'un fantôme de la préhistoire sur tout ça. Et ça fait un film assez, je crois, onirique, philosophique, et très calme et très réconfortant.
Comment éviter de tomber dans le piège, sachant qu'il y a eu énormément déjà de documentaires, de films sur la préhistoire, pour ne pas tomber peut-être dans la facilité ou dans la copie?
Moi, je crois qu'en fait, depuis le début, mon idée, c'est de trouver des lieux inédits, des personnages qui n'ont jamais été filmés, des connexions extrêmement privilégiées avec le grand passé. Et... peut-être, moi je crois qu'il y a au-dessus de nous des ancêtres qui nous guident et qui nous protègent et qui nous accompagnent. Et je pense que ces rencontres ne sont pas fortuites, qu'elles sont sur ma route, que je les prends, je les savoure, et que ça fait naître des rencontres et des images, puisque moi je m'exprime par l'image, qui en fait viennent tellement du très fond de moi-même que ça ne peut pas être une copie de quoi que ce soit d'autre.
On va dire aussi un mot, voire deux, d'un personnage important de la préhistoire, important en Dordogne, c'est Yves Coppens. Vous l'avez rencontré d'ailleurs dans le cadre du tournage de ce film. Qu'est-ce qui vous a apporté? C'est un grand monsieur de la préhistoire, faut-il le rappeler?
Alors Yves Coppens, effectivement, pour moi, c'est l'un des êtres humains sur Terre qui vous donne le plus de force pour continuer. C'est simplement... voilà, c'est le paléontologue préféré des Français, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a cette...
Peut-être le plus médiatique aussi.
Mais aussi le plus humaniste. C'est-à-dire que sans aucun jeu, il aime les gens. Et moi, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer lors du centenaire de l'homme de la Chapelle aux Saints, donc dans le petit village de Corrèze qui s'appelle la Chapelle aux Saints. Très brièvement, on a découvert en 1908 un homme de Néandertal extrêmement bien conservé dans une grotte, la Bouffée à Bonneval, à la Chapelle aux Saints. Il y a eu un grand débat. C'était la première fois qu'on trouvait un Néandertal entier. Et Marcelin Boule, du Musée de l'Homme, qui était chargé de son étude, refusait mordicus que Néandertal puisse être un homme. Donc il a été l'archétype du Néandertal et en même temps, il a été classé parmi les gorilles améliorés. Un siècle après, pour le centenaire, on fait revenir le squelette original du Musée de l'Homme et on le dépose en grande pompe dans la chapelle, de la Chapelle aux Saints. Et là, les villageois l'accueillent non pas comme un gorille, mais comme un ancien du village. Et ça, c'est extrêmement beau, extrêmement... ça illustre le fait qu'on commence à accepter, voilà, après 100 ans, que Néandertal était un homme, que les hommes de la préhistoire ne se promenaient pas avec des peaux de bêtes en faisant « onga, onga », mais que c'était des gens aussi grimpés aux arbres et s'y chassaient tellement bien qu'ils devaient être extrêmement agiles et intelligents. Et donc, on réhabilite et on commence à accepter notre très longue histoire, notre très long passé, en évitant les clichés et les rejets. Et donc, j'ai rencontré Coppens, le professeur Yves Coppens, à cette occasion, car il présidait ce centenaire. On ne sait plus, je crois qu'on peut le dire, comme je le fais toujours. Je lui ai envoyé le film avant... projection, il a pu le valider, il a donc compris que je travaillais dans le respect de mes interlocuteurs, et puis donc de part en part, quand on a sorti le dernier paysan préhistorien avec la revue Science et Avenir, c'est lui qui en faisait la couverture, il nous a aussi parrainé, il nous a protégés et porté tellement chance, et puis là, au château de Sauveboeuf, étant ami avec Claude Douze, il est passé, et bien sûr quand on lui a dit, mais c'est vrai, hein, Sophie Cator de Ferraci TV souhaiterait... vous rencontrez, il a tout laissé en plan et il est venu passer 2 heures avec moi dans le salon rouge et je lui ai dit, je voudrais cette fois-ci qu'on ait ensemble un entretien fleuve où vraiment vous donniez la vraie motivation, ce qui vous a conduit donc vers la paléontologie et vers la préhistoire, et pourquoi vous avez cette foi en l'homme indéfectible qui est tellement rare de nos jours. Et il m'a donné un entretien fleuve superbe, tellement touchant, où lui dit franchement qu'il croit en l'homme et qu'il est optimiste et qu'il est convaincu qu'avec tout ce qu'on a traversé, on traversera encore mille et une épreuves et qu'il faut être fier d'être humain et que voilà, et il faut croire en nous et nous donner la force d'être noble et élevé plutôt que de toujours nous rabaisser. Et ça, entendre ça aujourd'hui, c'est tellement salutaire que je lui en sais extrêmement gré.
Ce film que vous... oui.
Je précise que c'est le bonus exclusif du film, parce que le film dure 57 minutes et ensuite on a ce bonus exclusif de 40 minutes, comme je ne voulais pas du tout le découper en morceaux. Vous savez, Pascal, moi, pour moi, l'écologie dans le journalisme, c'est le respect de la personne humaine. Et donc, quand le professeur Coppens m'accorde 40 minutes d'interview, je garde 40 minutes. Voilà, et donc je les ai mis à part pour qu'on puisse en profiter intégralement.
Évidemment.
Ah.
Couper Yves Coppens, je crois que ça...
C'est un crime contre l'humanité.
Quasiment. Est-ce que ce film, ce château hanté par la préhistoire, nous apprend des choses? Est-ce que c'est juste le reflet, une visite que vous nous proposez?
Moi, j'ai vu à l'issue de l'avant-première au Pôle international de la préhistoire le 13 octobre dans le cadre de la Fête de la Science et en partenariat avec Science et Avenir qui a décidé de nous accompagner sur toute cette série de films pour mettre la préhistoire à la portée de tous. C'est un partenariat énorme. J'ai vu toute génération venir me voir pour avoir une dédicace, et donc des enfants de 10 ans, des 20, des 30, des 40, des 50, toute génération, et chacun avait pris son miel et me disait, mais voilà, j'ai tellement ressenti, j'ai tellement appris, en même temps ça m'a pas inondé de savoir, enrichie et curieux d'aller plus loin. Et dans le DVD, il y a un livret pédagogique qui reprend les principales étapes pour qu'on puisse les relire à tête reposée, parce que c'est important, voilà, de pouvoir aussi refaire ce chemin. Et j'espère bien qu'il y a à la fois de l'espoir et du savoir dans ce film, puisque mon projet, avec la communauté de communes Vallée de l'Homme, qui va naître donc en janvier 2014, c'est de faire une tournée dans les publics scolaires et auprès de ce qu'on appelle les publics empêchés, c'est-à-dire les maisons de retraite. Et pour moi, ça compte beaucoup de faire une sorte de petit barnum comme le cinématographe à l'ancienne, de faire la tournée, d'aller voir les enfants, d'aller voir les anciens, et puis de passer cette parole d'espoir et de connexion avec notre grand passé si peu présent dans les manuels scolaires finalement.
Et de faire sûrement de belles rencontres.
Mais oui. Surtout, être là en vrai avec la capacité d'entendre les retours et de partager le moment, bien sûr.
Ce château hanté par la préhistoire, donc ce film sera projeté au cinéma Max Linder. Hein,
oui.
Donc ce vendredi, il va y avoir une poursuite, puisque c'est une tournée que vous faites
voilà.
Depuis quelques semaines déjà.
Voilà. Alors, donc, le 1er novembre, on est au Max Linder. Le 8 novembre, à 21h, on est au cinéma Luxe du Buisson. Le 17 novembre, on sera, je crois que c'est à 17h, oui, au cinéma de Terrasson, très belle salle. Et puis on finira ce mois du film documentaire de novembre 2013 par une projection à Mussidan. De mémoire, je crois que c'est le 23 novembre à 20h45 au cinéma Notre-Dame. Donc autant de moments de rencontres possibles. Moi-même et le compositeur de la bande-son originale, qui est pour le coup très originale, seront présents pour discuter avec le public et échanger avec plaisir.
Qui est l'auteur de cette bande-son?
Alors voilà, comme en fait la préhistoire est totalement imprévisible et que plus on creuse, plus on recule dans le temps, en fait c'est comme un monde de science-fiction à l'envers. Et donc, j'ai demandé à Vincent Lesbrosse, qui est compositeur, photographe et musicien, donc, de créer un univers sonore très inédit, très inouï. Et c'est justement le cœur de son travail, puisqu'il est chercheur et qui travaille sur la création de son par l'image depuis une bonne vingtaine d'années. Et donc là, il a vraiment inventé un univers sonore sur mesure pour le film, très très surprenant. Et qui apporte beaucoup de magie et beaucoup de mystère et je crois des sensations très agréables quand on regarde le film. C'est vraiment de l'audio visuel.
Bon, alors il nous tarde évidemment de voir ce film. La saga va continuer.
Oui, donc on est en train de préparer le troisième opus de cette trilogie. Donc la préhistoire vue de l'intérieur d'une caverne et du cœur d'un homme, de l'intérieur d'un château et de sa collection d'outils. Et puis après, ce sera de l'intérieur d'une fouille. Et on essaiera de se poser les grandes questions, comme on sera un petit peu préparé. On aura vu l'art pariétal, on aura compris un peu l'outil et le mode de vie. Là, on va essayer de comprendre un peu les grandes questions culturelles que se posent les préhistoriens. Voilà, la façon dont les gens abordaient la vie, abordaient la mort, abordaient l'amour autrefois. Et ça, on va pouvoir le faire à la faveur de la reprise des fouilles à la Ferracie, où il y a toute la préhistoire, depuis 100 000 ans néandertal jusqu'aux hommes modernes, avec des squelettes de néandertal, avec des outils de toutes les époques, avec des blocs gravés aurignaciens des premiers hommes modernes qui sont magnifiques et présentés au Musée national de préhistoire. À la Ferracie, il y a tout. Il suffit d'avoir les meilleurs chercheurs et de reprendre les fouilles, comme c'est le cas, pour rouvrir les portes, le sésame de cet univers magique et aborder de façon, j'allais dire, plus libre et plus curieuse et plus critique toutes ces civilisations qui nous ont précédées et qu'on a souvent voulu minimiser ou ramener donc à quelque chose de primitif et maladroit, ce qui est complètement faux, bien sûr.
Pour vous qui avez fait des reportages un peu partout, vous consacrez depuis quelques années déjà et encore sûrement dans le futur à la préhistoire. Est-ce que ce n'est pas vous enfermer finalement dans un chapitre alors que vous pourriez faire tant et tant d'autres choses?
Mais moi je pense que la préhistoire est un formidable miroir du monde moderne. Donc quand je montre le monde des paysans ou le monde des notables, puis le monde des chercheurs, c'est aussi de la sociologie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voyage dans différents univers par rapport à ce que ces univers-là prennent et renvoient de la préhistoire. Donc, c'est pas, je ne parle pas que du grand passé, je parle aussi du présent à ma façon.
Très bien, merci beaucoup. Il nous tarde alors de voir ce château hanté par la préhistoire, ce film que vous nous proposez, ou tout simplement d'aller le visiter, d'aller le découvrir, parce que c'est un lieu
qui dorénavant est ouvert.
Absolument ouvert au public et qui est enchanteur.
Oui, c'est le mot.
Dans ces deux parties visibles et accessibles. Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous, Pascal.